N'oubliez pas que dans la topic, on pose des problèmes. Alors, veillez, parce que si la substance, c'est capital pour entrer en métaphysique, saisir la substance, on entre en métaphysique par cette porte particulière de la découverte de cette source cachée. Seule l'intelligence peut saisir. Je ne dis pas que par la relation on sort de la métaphysique. Mais c'est un petit peu ça quand même aussi. C'est l'autre aspect extrême de l'être. Ce qui montre bien que je ne peux pas saisir le vécu de l'être. Il n'y en a pas de vécu de l'être. Et instinctivement, on le fait. Hein. On ramène l'être à l'avoir. Psychologiquement, il y a les deux aspects. Celui qui est replié sur lui. Celui qui est toute voile dehors. Il y avait deux psychologies diamétralement opposées. La substance et la relation font comprendre le fondement de ces deux aspects. Mais l'être est au-dessus. Vous comprenez dans quel sens je veux le dire? C'est la conséquence de la relation au niveau psychologique. C'est la conséquence de la substance et de la relation au plan de notre psychologie. Mais au plan métaphysique, on saisit ce qu'il y a de premier. La substance est première. Elle est la source de toutes les déterminations. Et la relation nous fait comprendre comment l'être est au-delà de la détermination. Ça qui est si difficile à saisir dans la relation. Et saisir la quiétude de la relation. Parce que d'une certaine manière, on dirait qu'il n'y a pas de quiétude. Qu'il n'y a qu'un exercice. Le relatif, c'est celui qui est en exercice, si l'autre disparaît. Voyez, vous êtes semblable à un autre. Mais si l'autre disparaît, vous n'êtes plus semblable. Donc, il n'y a aucun avoir. Vous êtes égal à un autre, 110 kilos. Et l'autre, 110 kilos. Il disparaît, il n'a plus qu'un, 110 kilos. Il est l'unique. L'égalité disparaît. Sans crier gare. Dans l'amitié, l'ami disparaît. Il meurt. Alors, l'ami. Ah oui, il est l'ami de quelqu'un qui est absent. Absence totale par rapport à notre univers. Le problème de Gabriel Marcel toute sa vie. Il a cherché qu'est-ce que c'était que la présence de l'absent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai, la relation disparaît, c'est pour ça que tu restes, certains ont dit, et la relation c'est simplement une projection de l'intelligence sur la réalité. Mais il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien du moins de réel, d'objectif. C'est purement subjectif. Et je ne crois pas. Je crois que la relation a quelque chose de réel, d'objectif. Mais extrêmement ténu. L'être le plus débile, mais c'est encore un être. C'est pas une fausse. C'est pas une relation imaginative. Vous voyez ? Il y a une relation de raison qui est l'être de raison. L'être de raison est la relation. C'est-à-dire la relation seule peut être un être de raison. La substance ne peut pas. La qualité non plus. La quantité non plus. Très curieux. Alors, l'être de raison, la relation de raison, pensée à l'universel. L'universel, c'est un être de raison qui n'est pas réel, existant. Et cependant, il a quelque chose. Un être de raison qui n'existe que grâce à l'intelligence. Le fondement est l'acte de connaissance. Penser à l'universel, chercher à comprendre ce que c'est que l'universel. Unum in multis. L'un vers le multiple. L'un dans le multiple. C'est très curieux, l'universel. Ça ne veut pas dire que l'universel, c'est imaginatif. Pas du tout. L'imagination ne saisit pas l'universel. L'intelligence seule saisit l'universel. Il faut que l'intelligence pénètre dans la réalité pour saisir ce qu'est l'universel. Et dès que l'intelligence saisit une forme, une quantité, elle la saisit sous ce mode universel. C'est la marque de l'intelligence. Partout l'intelligence passe, l'intelligence humaine, l'universel apparaît. C'est le signe du passage de l'intelligence. C'est la trace de l'intelligence. Alors, il faut le saisir. Il faut penser l'universel. C'est pas si commode de penser l'universel. Or, on ne saisit ce que c'est que la logique que quand on pense l'universel. Parce que c'est par l'universel et à cause de l'universel que la logique existe. C'est cet art très particulier qui est la logique, qui n'existe qu'à partir d'un être de raison. C'est ce que la scolastique a essayé de comprendre. Comment un art peut-il exister réellement? C'est purement factice. C'est pas factice, c'est objectif. Et pour certains même, l'objectivité la plus forte, c'est la logique. Parce qu'il n'y a rien de subjectif. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose de subjectif dans l'être de raison ? Rien de subjectif. Dernier effort. Sur la relation. Donc, posez toutes les questions à vous-même. Parce qu'il y en a sur la relation. Vous les posez toutes. Puis quand on essaiera de traiter la relation au plan métaphysique indépendamment des topics, en reprenant le problème, si ce que je vous dirai à ce moment-là ne vous éclaire pas, vous essaierez de préciser vos questions en les donnant au Père Gabriel. Puis on fera un cours là-dessus, parce que ça vaut la peine. Parce que la relation éclaire la substance. Vous comprenez bien? Je comprends beaucoup mieux ce que c'est que la substance si je saisis la relation. C'est normal, puisque c'est les deux extrêmes. De fait, les deux extrêmes de l'être, pour moi. Substance, relation. Alors pensez toujours au relatif. Revenez toujours au relatif. Au legain, à l'attribution. Pensez à l'amitié. relation d'amitié. Les deux termes corrélatifs. Et pensez au réalisme de l'amitié qui fonde la relation d'amitié. Alors, si on veut comprendre parfaitement ce que saint Thomas nous dit de la relation, il faut regarder ce que saint Thomas nous dit dans la Somme à propos de la très sainte Trinité. Saint Thomas insiste sur le fait que la raison spécifique du relatif, donc la relation, la raison spécifique, je thématise le relatif pour le regarder selon un mode abstrait. La raison spécifique du relatif consiste en ce qu'il se rapporte à un autre. Tout est là. Le relatif ou la relation se caractérise par le fait de se rapporter à être vers et c'est ad. Ce que prend cet homme comme formule. Et c'est ad. Être vers. C'est ça la relation. On est tout entier. Et quelque chose pour vous, ça c'est la substance qui récupère, hein. On sait très bien ce que c'est que récupérer, hein. C'est la nuit, on récupère, c'est tout le freudisme, la nuit on récupère et la journée on se donne par l'impératif catégorique. Tu dois vers ça. C'est intéressant de voir ça parce que ça fait comprendre ce que c'est que être tourné vers. C'est aberré ad. S-C-A-D. Vous voyez, vous avez les deux formules. Le C aberré. Absolue de Dieu. Ipsum. le mystère. Trois personnes. Et la personne au plan métaphysique, hein, c'est la substance. Alors, une et trois. C'est contradictoire. Vous êtes obligé de dire, mais j'y comprends rien. Et c'est vrai, vous n'y comprenez rien. Mais il ne faut pas dire, je n'y comprends rien, parce que c'est absurde. Je n'y comprends rien, parce que c'est éminemment lumineux. On est ébloui. Alors, dans l'unité, la simplicité absolue, trois personnes. Et les personnes ne peuvent se distinguer. Elles se distinguent par l'origine. Elles se distinguent par la relation. Voilà comment le dirigeant va ici préciser. Alors, pour cela, il va tout de suite distinguer dans la relation. Cette in pour être tout entier tourné vers l'autre. Donc on peut peut faire cette distinction. C'est très subtil. C'est le théologien qui fait ça dans un regard de sagesse. Je peux le faire. Saint Thomas le fait en théologien. On se posera la question, pouvons-nous faire cette distinction en pur philosophe? Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on parle à ce moment-là de la relation Père Motum Substantiae. Vous voyez, la relation Père Motum Substantiae. Ça semble contradictoire et ça ne l'est pas. Il faut aller jusque-là dans la purification de la relation. C'est ce que fait Saint Thomas. Là, je suis en théologie.
Le problème se pose avec acuité. On y reviendra, je le pose maintenant.
Le propre de la topique, c'est de poser tous les problèmes. Et là, il y a un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité. Et qui fait qu'on comprend que des quantités ont suivi ça. Ils l'ont pas dit comme je vous le dis là, mais au fond, pratiquement, c'est à cause de ça. De plus, examinant la création, saint Thomas affirme que celle-ci est, dans la créature, une certaine relation au Créateur, étant la dépendance même de laisser participer par rapport au principe qu'il établit. Elle appartient au genre relation. Si elle est une certaine relation, il est clair qu'elle est une certaine res, dit saint Thomas, qu'elle n'est pas incréée, ni créée par un autre, par une autre relation. Dans la créature que nous sommes, le point de vue d'être créé, c'est une relation. Relation réelle vis-à-vis de Dieu. Considérée en tant que relation, la création a pour sujet la créature, qui lui est antérieure dans l'essai, comme le sujet est antérieur à l'accident. Mais s'il y a dans la créature une relation réelle à Dieu, car la créature est contenue sous l'ordre divin, et il est de sa nature de dépendre de Dieu. Par contre, en Dieu, il n'y a pas de relation réelle aux créatures. Quand il s'agit de la création, pour comprendre ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que ce fatchéré premier? Avant, il n'y avait rien. Et Dieu a créé. Mon âme est créée par Dieu. Mon âme, en tant qu'âme et substance, en tant que créée, elle est toute relative à Dieu, toute dépendante de Dieu. Comment préciser ces deux aspects? Elle est une réalité subsistante et elle est toute dépendante de Dieu. La création est une relation réelle du côté de la créature. Elle est une relation de raison du côté de Dieu. Ça aussi, c'est pas commun à comprendre. Alors, est-ce que là encore, c'est un regard qui provient de la foi, ou est-ce que le pur philosophe peut le dire? Saint Thomas le fait en théologien. Mais saint Thomas reconnaît que, de fait, la création peut être atteinte par la philosophie. Ça fait partie des préambules à Fidei. Aujourd'hui, très très peu considèrent ça. Si saint Thomas se sert de la relation pour montrer comment la créature est radicalement dépendante de son Dieu créateur, il s'en était servi également pour expliquer la distinction des personnes divines dans leur unité d'être et de vie. Ainsi, la génération du Fils signifie la relation par mode d'action, et la filiation est une relation telle qu'elle ne peut avoir pour sujet que le suppôt lui-même. La puissance d'engendrer, qui est en Dieu, signifie directement la nature divine, mais indirectement la relation. Tout ça, c'est de saint Thomas. Il faut bien saisir ce que ça veut dire. Le nom de personne signifie la relation, non par mode de relation, mais par mode de substance, celle qui est hypostase. Donc voilà les deux grands pôles de la théologie de saint Thomas, où la relation est utilisée pleinement pour aller jusqu'au bout. Essayez de comprendre ce qu'est l'émanation de la personne dans la très sainte Trinité, celle du Fils et de l'Esprit-Saint. Et comment ça aboutit à une vraie personne. et se sert également de la relation pour expliquer le lien entre créateur et création. C'est encore la relation que saint Thomas se sert pour exprimer ce qu'il y a de propre au mystère du Christ. Les trois lieux où la relation est employée directement. Trois grandes chevilles. Alors si on ne comprend pas la relation, on ne comprend rien au raisonnement de saint Thomas. Rien du tout. Et c'est pour ça que c'est important, je vous dis, c'est capital pour nous. Si on veut entrer dans la théologie de saint Thomas, mystère de la très sainte Trinité, mystère de la création, mystère du Christ. Alors voici ce que dit saint Thomas à propos du mystère du Christ. Rien n'empêche qu'il y ait dans le Christ certaines relations réelles à l'égard de la Vierge Marie. Comme lorsque nous disons que le corps du Christ provient de la Vierge. Mais cette relation n'a pas raison de filiation, de la nativité temporelle ne naît pas une filiation réelle, mais de raison seulement, bien que le Christ soit réellement fils de la Vierge. Ah. Et ce texte, c'est merveilleux de voir comment le théologien essaie de comprendre ça. C'est dans le Quodlibet 9, article 4, et dans le Compendium, chapitre 212. C'est-à-dire, c'est le théologien qui s'amuse, allez. Hein? Le scapel du théologien qui discerne exactement quel est le fondement et quel est le havre. Et c'est vrai, la maternité divine de Marie, elle se termine à la personne. Et la personne, c'est le Verbe de Dieu. Et donc, elle est incréée, la personne. Elle est Dieu. Elle est de toute éternité. Alors, comment comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Marie? Et que Marie est la Mère de Dieu? Instinctivement, on dira, Marie est la Mère du Christ. Reste dans des quantités qui ont dit ça. Il a fallu un concile pour arriver à dire non, non, elle est la mère de Dieu. Si elle est la mère de Dieu, sa maternité se termine au Fils, qui est le Verbe. Alors comment comprendre ça? Comment? On ne le comprend pas, c'est un mystère. Mais comment rejeter toutes les objections? Et montrer que ça ne peut pas être autrement. C'est encore la relation. On voit comment saint Thomas, non seulement a assumé toute la philosophie d'Aristote concernant le relatif et la relation, dans un néoplatonisme, vous ne pouvez absolument pas comprendre ça. Mais encore à préciser la notion de relation en ce qu'elle a de tout à fait propre, ce qui lui a permis de s'en servir de manière très diverse, sans confondre sa fonction primordiale du point de vue de la connaissance et son rôle toujours secondaire, relatif, du point de vue réel et ontologique. Donc vous voyez les trois lieux, les trois grands lieux où saint Thomas se sert dans la relation. La Trinité, la création, le mystère de Marie et de la maternité divine. C'est quand même trois lieux importants. Du reste, on pourrait continuer, puisque l'Eucharistie. C'est étonnant de voir comment la théologie scientifique de saint Thomas se sert de la relation et du relatif. Après saint Thomas, la relation va être diversement interprétée par les théologiens. Encore une fois, nous ne pouvons pas pas ici, on ne peut pas mentionner tout ça, mais c'est très intéressant de regarder chez Don Scott, Suarez et Jean de Saint-Thomas. Jean de Saint-Thomas comme celui qui essaie d'être fidèle à Saint-Thomas face à Suarez, face à Don Scott. Et c'est à partir de là que de fait sera élaboré le concept de relation transcendantale. Que les puristes diront que c'est de Don Scott et pas de fidélité à Saint-Thomas. Là, il y a aussi un problème, alors un problème d'école qui est très intéressant. De voir exactement si on peut dire que la relation transcendantale est dans Saint-Thomas. Ou si on dira relation transcendantale en raison de Don Scott. On ne verra pas ce problème. Parce que c'est un problème plus théologique. Et un problème d'école entre Don Scott et Jean de Saint-Thomas. Mais c'est intéressant de voir que ce problème se pose parce que il est justement quelque chose qui est assez particulier. La relation transcendantale, vous voyez ce que ça veut dire? La puissance est en relation transcendantale vis-à-vis de son objet. L'intelligence par rapport à ce qui est. La volonté par rapport au bien. La volonté comme telle, comme puissance, ne peut se définir que par rapport au bien. L'intelligence comme telle ne peut se définir que par rapport à l'être. Donc elle est en relation vis-à-vis de l'être. Elle est en relation vis-à-vis du bien. Et cependant, la puissance d'intelligence et la puissance de volonté en tant que capacité à poser l'opération intellectuelle ou l'opération volontaire est quelque chose. Elle n'est pas purement relative. C'est une qualité. La puissance est une qualité. Une capacité pour opérer, pour poser la pensée, poser le velle, l'acte volontaire. Alors comment comprendre une qualité qui est tout entière tournée vers l'autre? Alors on dira relation transcendantale. Vous voyez? Alors, le mot est peut-être maladroit. Et je crois qu'en effet, le mot, l'expression, vient de Don Scott. Ou d'un disciple de Don Scott. Alors ça avait tout du boucan, savoir si c'est vraiment dans la perspective de Saint Thomas, pas dans la perspective de Saint Thomas, la scolastique telle qu'on la trouve dans Jean de Saint Thomas n'hésite pas de parler de relations.